Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast, je vous emmène à Tours, à plus de 200 km au sud de Paris, pour les Assises internationales du journalisme. Les Assises du journalisme, c'est le rendez-vous annuel des professionnels de l'information. Objectif, questionner les pratiques, discuter des difficultés économiques des médias ou encore réfléchir à la place de l'information dans la société. Le thème de cette édition ne vous surprendra pas, informer au temps du Covid. Et pour commencer, j'ai attrapé au vol Jérôme Bouvier, président de l'association Journalisme et Citoyenneté, l'organisateur des Assises. Salut Jérôme.
Salut, comment ça va? Merci d'être là encore, fidèle à l'événement.
RFI. Cette année, les Assises du journalisme se font en petit comité avec une jauge de 200 personnes en raison de la pandémie de coronavirus. Donc ce n'est pas l'événement ouvert qu'il se veut habituellement.
Non, bah c'est un. On explore comme un peu tout le monde depuis 8 mois que cette pandémie terrifiante est arrivée dans notre quotidien et sur la planète entière. On explore des nouveaux moyens de maintenir ce moment de rendez-vous qui nous paraît important entre, comme vous l'avez dit, les journalistes, les éditeurs, les patrons de presse, les citoyens, les chercheurs, pour essayer de débattre ensemble des conditions de production d'une information de qualité. Et donc, on y reviendra peut-être, mais on a dû en avril dernier, on l'a vécu douloureusement d'ailleurs. 15 jours avant une grande édition qu'on devait tenir ici sur 4 jours comme d'habitude avec tous nos... On a dû tout annuler, 300 intervenants qu'on annule, enfin tout qui s'effondre comme ça alors qu'on a travaillé depuis un an sur le thème. On a vécu ce moment de sidération que chacun a vécu, y compris dans son intimité pendant ces mois-là, et on s'est dit il faut qu'on essaye de prendre la mesure de cette période que nous traversons, qui est quand même inimaginable, qui est inimaginée. Enfin, qui aurait simplement 3 jours avant qu'on commence à parler de ce Covid, imaginez les conséquences d'un breaking news mondial de 55 jours où tout d'un coup 4 milliards d'individus qui se sont arrêtés. Et donc on est là-dedans. Et on y est malheureusement sans doute pour longtemps. Et donc d'appuyer sur le bouton pause et de se dire on va prendre ça sous tous les angles et on va réduire à 2 jours. On l'a conçu comme une émission de télévision spéciale, une sorte de téléthon de 2 fois 12 heures d'antenne, comme de 9h à 20h. Sur une seule et unique question, comment mieux informer à l'heure du Covid. Voilà, c'est le seul et unique sujet et on va essayer de le prendre sous tous les angles.
Et donc tout cela, ça se passe physiquement, mais aussi sur YouTube.
C'est ça. On peut nous suivre sur nos réseaux, évidemment, Facebook, Twitter, et sur notre site journaliste.com en live, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et à chaque fois qu'un atelier est terminé, en gros, un quart d'heure après, une demi-heure, disons, prenant quelques précautions, vous pouvez aller revisionner aussi longtemps que nécessaire chacun des ateliers et chacune des cartes blanches qui sont délinéarisées.
Le thème cette année, c'est informer au temps du Covid. Pourquoi ce thème unique?
Il semblait que c'était une évidence. On peut en parler pour le public, hein, parce qu'on a un sondage que l'on publie chaque année à l'occasion des Assises, le baromètre des Assises, qui apporte un regard assez sévère de nos publics sur la façon dont ils ont été informés pendant cette période. Il y a nécessité sans doute de s'arrêter un peu à mi-course, puisqu'on est à mi-course après cette première vague et malheureusement sans doute à l'aube de la deuxième, d'essayer de prendre ça à la fois sous l'aspect dans les rédactions, qu'est-ce que ça veut dire un collectif rédactionnel quand tout le monde est en télétravail. J'ai toujours pensé, moi par exemple, que la conférence de rédaction était une des clés de la réussite d'un journal, bon, ou d'une édition en télé ou en radio. Si chacun est dans sa chambre, dans sa salle de bain, c'est compliqué. Donc essayer de faire à la fois de prendre la mesure de ce qui a bouleversé nos usages et peut-être de ce qui a été très intéressant là-dedans, parce qu'on voit qu'on a ouvert des nouvelles pistes, des nouvelles manières de travailler. Du point de vue scientifique, c'est-à-dire que l'expertise scientifique, on voit à quel point c'est très compliqué. C'est-à-dire que notre métier, nous, c'est quand même d'apporter une information vérifiée. Et aussi certaine que possible, non pas vraie, mais certaine que possible. Or, on a des experts qui se sont succédés à nos plateaux pour dire soit les plus honnêtes et les plus sérieux, je ne sais pas, soit les plus tartempions pour dire je sais et j'ai la solution pour soigner la grippette. Et nous, au milieu de tout ça, on était dans un pays à l'anxiété maximale. On a vu que le mot anxiété est le mot qui ressortait de partout. On devait apporter une information de qualité là-dedans. Donc la question de l'expertise scientifique, on va beaucoup en parler. J'aurais pu avoir un autre titre sur le fond pour cette édition, c'est « Informer au temps de l'incertitude ». Je crois que la grande question de ces 2 journées, c'est ça.
Merci Jérôme Bouvier, organisateur des Assises du journalisme.
Merci à toi d'être encore une fois aussi fidèle, attentif à tout ce qui se passe aux Assises.
Durant 2 jours, de nombreuses tables rondes sont organisées au site MAM à Tours. Le premier atelier porté sur le traitement de la pandémie dans les JT français. Je suis allé à la rencontre de Géraldine Pouls. Elle est responsable de la valorisation scientifique à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
Into each life, some rain.
Bonjour Géraldine Pouls.
Bonjour.
Durant cette crise du coronavirus, les audiences télévisées ont explosé et il y a un marqueur fort, c'est que les journaux télévisés du soir se sont mis à parler énormément, quasi exclusivement du coronavirus.
Oui, on voit que les journaux télévisés ont repris un rôle vraiment central dans l'information des Français, comme se sont réaffirmés comme médias de référence. Hein. On dit souvent que les journaux sont menacés par l'information en ligne, etc. Là, on voit bien qu'il y avait un grand besoin d'information vérifiée, sûre, et que les journaux ont répondu à ce besoin d'information en consacrant en effet pas moins de 80% de leur temps d'antenne à l'épidémie pendant le confinement, ce qui est énorme, avec des inégalités selon les chaînes, mais quand même une grosse mobilisation des rédactions sur le sujet.
France Télévisions a-t-il montré et joué son rôle de média de service public avec une offre spécifique ?
Oui, alors déjà, la mission de service public, je pense que toutes les rédactions se la sont un peu réappropriées. On a vu que tous les journaux télévisés mettaient en place des rubriques de réponses aux téléspectateurs, d'échanges avec les téléspectateurs, de réponses aux questions qui étaient, ils ont été vraiment assaillis de questions. Donc, cette dimension interactive et en proximité avec le public, elle a été partagée. Là où peut-être les chaînes du service public se sont distinguées, c'est pas forcément tant sur l'information que sur les émissions de service proprement dites. On a vu que France 2 et les chaînes de France Télévisions ont mis en place des émissions, l'UMNI par exemple, l'offre éducative pour maintenir la continuité pédagogique, rester en forme, donc des émissions de santé. Des choses comme ça qui ont montré une mobilisation du service public, une capacité d'innover, d'être réactif aussi et de proposer des nouvelles émissions vraiment de service.
Et de service et aussi peut-être de vulgarisation malgré le fait qu'on était dans une période où il y avait peu de réponses au final à donner.
Oui, alors là, évidemment, c'est le grand défi auquel ont été confrontées les rédactions, la vulgarisation, la pédagogie. Je pense qu'on manque un petit peu de recul encore pour avoir vraiment un regard critique sur ce qui a vraiment été fait, sur le rôle des journalistes scientifiques. Il faudra peut-être revenir un petit peu ultérieurement sur tout ça, faire des études plus qualitatives pour mesurer vraiment la qualité de l'information. Mais c'est sûr que c'était une information qui était fabriquée dans des conditions extrêmement difficiles pour les journalistes.
Merci Géraldine Pouls.
Merci à vous.
Vous êtes chargée de valorisation scientifique à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. À bientôt.
Avez-vous constaté, Arnaud, que les autorités chinoises mentaient sur leur nombre de cas pendant la montée de l'épidémie ?
Difficile objectivement de creuser. Si vous parlez à des spécialistes à Hong Kong, systématiquement, on dit qu'il faut rajouter un zéro. Officiellement, par exemple, il y a 4653 morts en Chine à ce jour. Ce sera à peu près 46 000 si on écoutait les Hongkongais, si on écoutait les Britanniques, il faut multiplier par 15 ou par 24. C'est très compliqué de le savoir et là, pour le coup, pourra-t-on, je ne pense pas.
Oui, bonjour, je suis Cyril Petit, donc directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Et puis, je m'intéresse à l'avenir de la presse, à son présent et un peu à son passé pour voir comment on peut changer aussi un peu le journalisme.
Il y a un sondage Via Voice pour les Assises du journalisme qui a été publié il y a quelques jours qui nous dit que 60% des sondés estiment que la place accordée à la pandémie dans les médias a été trop importante. Est-ce que toi, en tant que directeur adjoint d'un journal, tu as aussi eu ce sentiment rétrospectivement ?
Cette place de la pandémie dans les journaux et dans les médias, elle était importante. C'est normal parce qu'il n'y avait que ça comme actualité. Toutes les autres actualités culturelles, sportives et même politiques sont passées au deuxième plan. Elles ont même disparu. Donc, que les Français déclarent que cette place a été trop importante, ils ont aussi cette impression de trop-plein. Mais à la fois, on le voit dans le même temps, les audiences ont été excellentes. Et donc, les Français se sont intéressés à cette pandémie. Donc, il y a là aussi un petit paradoxe. Moi, ça me fait penser... alors, je ne veux pas mettre évidemment en question le sondage, mais ça me fait penser à tous les gens qui disent dévorer les pages culture, mais quand on fait les études un peu pointues, on se rend compte que tout le monde lit les faits divers. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un côté déclaratif où on abaisse un tout petit peu la tendance, mais il y a eu beaucoup de pandémies, oui, mais parce que c'est un événement historique qu'on a vécu et les médias donc se sont mis au pas de cette actualité.
Il y avait un besoin d'information dingue de la part du public, de la part des Français, avec des chiffres d'audience numérique très impressionnants, c'est presque du jamais vu, j'ai envie de dire.
Oui, c'est du jamais vu. On a vu cette appétence pour le numérique parce que ça a aussi remplacé, notamment pendant le confinement, d'autres types de moyens d'information. Et puis le numérique, bah, on sait, c'est l'endroit où se retrouvent tous les médias. C'est l'endroit où la télé, la radio et la presse écrite se retrouvent aujourd'hui. Donc voilà, on a vu vraiment des booms d'audience d'information dès qu'on publiait des informations qui concernaient le quotidien des gens. Parce que c'est vrai que là, on était sur une actualité qui est évidemment une actualité sanitaire, mais une actualité qui avait des conséquences sur le quotidien des gens. Donc ils se sont jetés sur cette information.
Justement, est-ce qu'en termes d'équilibre ou en termes de thématiques et de façon de les traiter, de mode de traitement, des choses ont changé durant cette période-là pour le journal du dimanche?
Bah, ce qui est sûr, c'est que nous, on a complètement cassé le journal. C'est-à-dire que voilà, nos rubriques classiques n'existaient plus. Alors, il y a évidemment l'exemple facile qui est celui des sports, où il n'y avait pas de sport. La culture qui était aussi très, 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 très faible à ce moment-là. Donc, on a changé, nous, le déroulé vraiment de notre journal, donc sa structure, avec une rubrique sur la vie confinée, avec une rubrique sur la crise sanitaire, avec une rubrique sur le monde d'après. Donc, on a vraiment changé notre façon de traiter l'actualité. On a rendu gratuite, en tout cas, on n'a pas passé payant notre newsletter quotidienne qui était 100% consacrée au Covid. Là aussi, il y avait une nécessité de se mettre au service des gens et donc de considérer qu'un certain nombre d'actualités, parce que d'intérêt général, devaient un peu sortir de notre modèle économique classique qui est de faire de l'info payante. Et puis nous, au JDD et notamment sur nos supports numériques, on ne fait pas d'info en continu, on ne publie pas de dépêche AFP. Donc on a quand même aussi essayé de garder ce point de vue qui était celui on prend notre temps dans l'information, et puis voilà, puis on a aussi réorganisé toute la rédaction. Bref, c'était un grand changement aussi. On a plus innové en 3 mois qu'en plusieurs années pendant cette crise, et je crois que c'est le cas de tous les médias.
Alors justement, on a observé durant cette crise un boom des abonnements numériques, mécaniquement, enfin donc déjà des abonnements plus sur le numérique que sur le papier. Est-ce que ça a aussi été le cas pour le JDD?
Oui, nous on a vu ce boom donc des abonnements numériques au JDD comme ça a été le cas pour tous les médias. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, ça a été le confinement avec des points de vente qui, même si l'information ayant été considérée comme un bien essentiel, les marchands de journaux, les marchands de presse ont pu rester ouverts. Mais nous, sur la période, c'est environ 25% des marchands qui étaient fermés chaque dimanche. Donc il y a eu cette première actualité, on va dire, qui a eu des conséquences sur la diffusion de la presse. Il y a eu également ensuite la crise à Presstalis. Hein, donc Presstalis, c'est le distributeur de la presse en France. Et donc, il y a eu une crise avec, pendant 3 à 4 semaines, les journaux qui ont mal été distribués. Donc on va dire qu'on a eu ces raisons-là. Et puis, évidemment, que le boom des abonnements numériques, on l'a vu tout simplement parce que aussi on est devenu quotidien, enfin on a continué à être quotidien tous les jours pendant la crise avec notre newsletter quotidienne qu'on a rendue gratuite. On a fait un abonnement gratuit pendant 2 mois, 0€, à l'ensemble de l'offre du JDD. Donc maintenant l'enjeu, c'est de réussir à garder ses lecteurs. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est que on a vu que les gens, ils avaient besoin de continuer à avoir un rapport physique au papier. On l'a vu, alors nous, le numéro qui est celui 2 jours avant le début du confinement, Édouard Philippe annonce à 20h que la France va se confiner et que les bars ferment dès le soir même. Enfin, en tout cas, il annonce la fermeture des bars avant que Emmanuel Macron annonce le confinement. La vente du dimanche est notre vente record de l'année. Et on se rend compte qu'en fait, les gens, ils allaient chez les marchands de presse, ils faisaient la razzia. Ils achetaient beaucoup de titres et pour passer le confinement avec quand même ce support papier.
Alors le problème, c'est aussi que la hausse des abonnements numériques ne compense pas la baisse de la vente au numéro et surtout la baisse des ressources publicitaires. Y a-t-il des raisons d'être fébrile pour la presse dans les mois qui viennent?
Alors, quantitativement, en termes d'audience, la hausse des abonnements numériques compense la baisse des ventes au numéro. On voit aujourd'hui Le Monde, notamment, hein, le journal qu'on dit de référence en France, qui annonce aujourd'hui avoir plus de lecteurs quasiment qu'il n'a jamais eu de son histoire. Donc le numérique permet, et ces abonnements numériques permettent de compenser la baisse de la vente au numéro. Cependant, le point que vous évoquez est crucial, c'est celui du modèle publicitaire. On le sait, en France, 95% des journaux ont ce double modèle pub et ventes. Alors, la pub a beaucoup souffert pendant le confinement, évidemment. À la sortie du confinement, on a senti un frémissement. Nous, au Journal du Dimanche, je touche du bois, comme on dit, la pub revient parce que la pub accompagne le redémarrage économique. Le plan de relance, il se fait aussi pour les annonceurs, pour les grandes marques qui, par le biais de la publicité. Donc, on va dire que cette crise, elle a relevé aussi le fait que, il faut, pour assurer notre avenir, qu'on assure d'abord nos abonnements numériques, parce que ça, c'est une relation de confiance qu'on crée avec nos lecteurs. Pour la petite histoire, nous, on sait qu'on a des abonnés numériques qui sont abonnés numériques, mais qui achètent quand même le journal le dimanche. Parce que acheter le journal du dimanche en France, c'est un espèce de rituel qu'on achète en allant au marché, en allant au café ou en prenant l'apéro. Donc voilà, il faut que les médias aujourd'hui, ils arrivent à s'adapter à ces usages. Alors il y a des journaux qui seront 100% numériques demain, et puis d'autres qui vont continuer à garder ce rôle sur le papier. On le voit cet été avec le carton notamment du magazine Society, qui prouve qu'il y a aussi un avenir pour le papier.
Donc le Covid n'a pas tué le papier, voire même, oserait-on dire que le Covid a été une chance et un accélérateur pour la presse papier ?
Le Covid a été une chance ou un accélérateur pour la presse écrite, qui réussit à la fois à maintenir autant que faire se peut ses ventes papier, mais qui surtout réussit à basculer de l'écrit vers le numérique. Moi, il y a quelque chose qui est important, c'est la notion de journal, sur laquelle il faut, à mon avis, insister. C'est-à-dire que dans le mot journalisme, il y a le mot journal. On le voit dans le sondage que vous citiez tout à l'heure via Voice. Les Français, leur principale source d'information pendant le Covid, ça a été le journal télévisé. Je pense que cette information hiérarchisée, ordonnée, avec un début, une fin, un milieu, mise en scène, la télé sait le faire avec ses JT, la radio sait le faire avec ses flashs, les journaux papier savent le faire avec ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire le déroulé et les rubriques, etc., etc. Aujourd'hui, le numérique, quoi qu'on en dise, ne sait pas faire ça. Le numérique, c'est très peu mettre en scène une information hiérarchisée, choisie, qui va pas nous balancer toujours d'un lien vers un autre lien, etc., etc. Donc, à mon avis, la crise du Covid, elle a montré l'importance du format journal, qu'il soit imprimé ou qu'il soit numérique.
Merci Cyril Petit, directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche, le JDD.
Je suis Jean-Marie Charon, je suis sociologue et je travaille depuis très longtemps sur les médias. Je suis rattaché à l'école des hautes études en sciences sociales.
Alors, vous venez de présenter aux Assises du journalisme de Tours le baromètre social des Assises. C'est un rendez-vous annuel. Quelques chiffres que vous donnez. Quelles sont les tendances cette année en 2020?
Écoutez, depuis déjà plusieurs années, depuis 2009 en fait, on a une tendance qui est une tendance au recul du nombre de journalistes. Jusqu'à présent, si on se comparait avec d'autres pays, je pense aux États-Unis ou à l'Espagne, on pouvait considérer que la situation française n'était pas si mauvaise que ça, parce qu'on avait une petite dégradation. Mais là, cette année, on voit qu'il y a une espèce de marche qui a été franchie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins, on a je crois pratiquement 900 journalistes en moins rien que pour cette année, et on arrive du coup sur une période d'un peu plus de 10 ans à un recul du nombre de journalistes de moins 10%.
C'est du jamais vu.
C'est, disons que pour nous c'est inédit, en tout cas une amplitude aussi importante que cette année, c'est inédit. Et ce qu'il faut surtout avoir en arrière-plan, c'est que ce moins de journalistes intervient alors que le paysage des médias dans la même période a eu plutôt tendance à se fragmenter, donc on a plus de rédactions, et pratiquement toute rédaction est aujourd'hui obligée de travailler sur différents supports, et certains de ces supports obligent d'ailleurs à travailler beaucoup plus longtemps, puisque le numérique a plutôt tendance à tirer vers les rédactions vers du 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une tension entre la baisse des effectifs et effectivement ce besoin de faire travailler davantage les journalistes. Donc ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance, et là qui aussi m'inquiète pas mal, c'est que dans les nouvelles cartes, cette année, on en a, je crois, autour de 1200. Là aussi, il y a un gros décrochage. Il est significatif parce que c'est presque moins 30%.
Donc en fait, il y a de moins en moins de jeunes ou de journalistes tout court qui demandent chaque année la carte de presse.
Qui demande la carte de presse, et ça c'est quelque chose de plutôt nouveau pour une telle ampleur. Alors, est-ce que c'est un effet confinement, Covid, etc., où certains n'ont pas pu virer demander la carte de presse parce que pour avoir la carte de presse, il faut déjà travailler dans une entreprise de presse. Hein, c'est un dispositif, la loi de 35 nous dit ça, et journaliste, celui qui travaille dans une entreprise de presse. Donc peut-être qu'il y a un effet retard, je l'espère, mais là, on voit incontestablement qu'il y a un changement de conjoncture. Sinon, après, si vous voulez, dans les autres éléments importants qui sont un peu dans la continuité, c'est toujours la précarité, c'est-à-dire le fait d'être ou pigiste ou être journaliste en situation de chômage, donc qui peut continuer en partie son activité, mais de manière relativement limitée. Et là, on a quand même un chiffre repère, c'est 1 sur 4, un journaliste sur 4 qui connaît cette situation de précarité. La bonne nouvelle, j'irai en tout cas pour dans mon cas, c'est de considérer que c'est une profession qui se rapproche de la parité, et on est à 47,5%, je crois, de journalistes qui sont des femmes. Donc ça, c'est plutôt un paysage qui devient plus normal par rapport, c'est vrai, à une profession qui pendant très longtemps était quand même assez masculine.
Le thème cette année des Assises internationales du journalisme, c'est informer au temps du Covid. Voit-on déjà les premiers effets de la crise sur le métier de journaliste ?
Alors, il y a incontestablement un effet, et qui part, si vous voulez, de la manière dont les conditions générales de l'économie des médias est affectée. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'on est autour de moins 30% de ressources publicitaires. Et ça concerne des médias qui, comme la presse écrite, ont à la fois de l'achat par le lecteur et de la publicité, ou des médias qui ne vivent que de la publicité, comme les radios et les télévisions commerciales. Donc je pense que... Donc ça, c'est un premier aspect. Dans la presse écrite, on a un deuxième aspect qui est lié à la pandémie, plus une crise, alors qui n'a rien à voir avec la pandémie, qui est la crise de Presstalis, le système de distribution de la presse. Et là aussi, on a eu, pendant plusieurs mois, un recul très sensible du nombre de ventes au numéro, sans compter une perturbation de la Poste, qui a été très, très peu opérationnelle pendant de nombreuses semaines, et qui risque d'avoir fragilisé ce qu'on appelle l'abonnement imprimé. Alors, est-ce que ça va conduire certains à aller vers l'abonnement numérique ? Sans doute. Hein. D'ailleurs, on a vu que les abonnements numériques ont progressé dans la même période. Mais pour les plus âgés d'entre nous, les plus habitués à leur support imprimé, il n'est pas sûr qu'il y ait ce report. Donc, quand on a dit ça, ça veut dire qu'il y a une dégradation générale de l'économie du média. Du coup, des effets sur les journalistes, il y a par exemple des faillites, qui ne se traduisent pas forcément par des disparitions de titres, mais chaque repreneur, en général, a eu plutôt tendance à revoir à la baisse les effectifs. Donc déjà, il y a un impact sur l'emploi. Il y a eu aussi beaucoup de plans sociaux, beaucoup de réorganisation des rédactions, et là souvent des plans sociaux importants, y compris dans des secteurs qui étaient traditionnellement, qui embauchaient, je pense à la télévision d'information en continu, où on voit là le groupe privé leader Next Radio Télé qui supprime 245 CDI et qui limite en plus le recours aux pigistes et aux intermittents.
Est-ce que c'est pas aussi un désastre pour justement ceux qui veulent devenir journalistes, les jeunes, les étudiants qui cherchent à faire des stages, avoir leurs premières expériences ?
Incontestablement, ça va conduire à quelque chose qu'on observe justement dans l'enquête qu'on fait sur le départ des journalistes, parce que certains partent très tôt, hélas, c'est qu'effectivement, pour certains qui ont fait des écoles de journalisme, la sortie d'école, alors que ce sont des écoles qui prolongent souvent, on est à bac plus 5, bac plus 6 pour certains, voire plus, à la sortie, ces jeunes vont se retrouver soit vers des options piges, et uniquement piges, et dans des conditions qui ont été évoquées d'ailleurs dans un débat tout à l'heure des assises, où on a vu que les tarifs avaient plutôt tendance à baisser, soit l'enchaînement de CDD là aussi crée un sentiment de fragilité, y compris dans des médias paradoxalement comme les médias publics. On pourrait imaginer que parce qu'on est dans le secteur public, on est davantage dans une stabilité d'emploi. Non, au contraire, parfois les CDD s'enchaînent les uns derrière les autres. Avec aussi, il faut le reconnaître, une tendance à ce que les rédactions figent un peu les postes, les fonctions, et que du coup les jeunes journalistes se voient proposer très souvent des emplois sur le numérique. Le numérique peut être très extrêmement intéressant, extrêmement riche comme type d'activité, mais ça peut être aussi de se retrouver dans un desk où on va essentiellement reformuler des contenus qui peuvent être des contenus qu'on va trouver sur différents sites, ou évidemment évidemment sur les dépêches d'agence, et y compris quelque chose qui est un peu inconnu dans l'univers des journalistiques, c'est-à-dire qu'on va travailler sur du 20 heures sur 24, voire 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'on va avoir des journalistes qui vont travailler en équipe, enfin disons qu'ils vont se succéder dans la journée. Et ça aussi, c'est un contexte qui va, je dirais, qui est tellement en rupture, tellement en contradiction avec ce qu'a été la motivation de ceux qui se sont tournés vers le journaliste, que effectivement on a parfois des départs qui sont très très rapides ou en tout cas un sentiment de frustration chez ces journalistes.
Alors vous venez d'en parler, hein, vous avez un nouveau sujet d'enquête qui s'est, on peut le dire, imposé à vous, vous intéressez à ces journalistes qui ont décidé de quitter la profession. C'est un travail que vous n'aviez jamais mené, vous, en tant que sociologue des médias qui faites ça depuis plusieurs décennies?
Non, parce que en plaisantant, j'ai souvent tendance à dire que l'un de mes premiers travaux sur le journalisme, j'ai pas toujours travaillé sur le journalisme, mais l'un de mes premiers travaux sur le journalisme, c'était une enquête sur le journaliste qui s'appelait Carte de presse. Et donc là, 30 ans plus tard, je me retrouve à faire ceux qui partent de la profession. Non, c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas très simple à faire, en tout cas je l'imaginais, parce que comment identifier ceux qui partent, comment, vous voyez, c'est facile de travailler sur ceux qui ont une carte de presse, ceux qui sont dans des entreprises, etc. Mais c'est une fois qu'ils sont partis, comment les retrouver, etc. Et là, c'est pour le coup la vertu des réseaux sociaux. C'est un sujet qui est parti dans une discussion sur Twitter, et où toute une série de personnes m'ont dit « mais moi je suis prêt à en parler ». Et là, du coup, comme c'est un sujet que je sens important. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu ces dernières années que les durées de carrière baissaient. On a une quinzaine d'années de moyenne. On entendait effectivement de plus en plus parler de départ et là, si vous voulez, un peu cette mythologie qui était de dire les journalistes vont vers la communication. Non, on a commencé à entendre parler de journalistes qui deviennent profs, des journalistes qui deviennent artisans, des journalistes qui vont dans l'agriculture, enfin, etc. Des choses un peu insolites. Et là, je me suis dit, je vais pas indéfiniment me poser la question de mais qui sont ces gens, pourquoi les carrières se réduisent. Et du coup, on fait une enquête, une vraie enquête de bonne sociologie traditionnelle. D'abord, ce qu'on appelle du qualitatif. Et là, je suis en train de discuter avec différents organismes pour la prolonger, pour en faire une enquête quantitative que j'espère on pourra présenter aux Assises en 2021, ici à Tours.
Le rendez-vous est donné. Merci Jean-Marie Charron.
Oui, merci à vous.
Jean-Marie Charron, sociologue des médias rattaché à l'École des hautes études en sciences sociales.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez peut-être constaté sur mes réseaux sociaux. Chaque jour, en cette période de confinement, je partage avec vous un nouveau savoir en vous faisant profiter de mon petit bout de jardin quand il fait beau ou de mon atelier. Une capsule de déconfiné en quelque sorte.
Alors je suis Jamy Gourmaud, je suis journaliste, allez plutôt scientifique, journaliste de la connaissance. Mais moi j'aime bien le terme de passeur. J'essaie de faire le lien entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir.
Jamy Gourmaud, en France, le grand public vous a découvert avec C'est pas sorcier, une émission de vulgarisation qui a marqué de nombreux enfants, moi y compris. Ce virus, ce Covid, quand la pandémie a éclaté, on ne le connaissait mal. Comment vulgariser dans ces conditions ?
Ben justement, il y a beaucoup de travail à faire quand un événement comme celui-ci se produit. Comment vulgariser ? Ben déjà en se posant les première question, c'est quoi un virus ? Expliquer au public la différence entre un virus et une bactérie, c'est déjà énorme. Et ça nous permet non seulement d'apporter des éléments de connaissance autour de ce sujet, mais d'aller au-delà et d'apporter des éléments de connaissance autour de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie, finalement ?
Durant le confinement en France, les écoles étaient fermées. Pour les enfants, les adolescents, les étudiants, c'était souvent l'école à la maison, parfois via la visioconférence. Et il y a une plateforme de vidéos en ligne que vous avez investie durant ce confinement, c'est YouTube. Expliquez-nous.
Alors ça, c'est un peu le hasard. Il y avait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais je ne savais pas trop comment faire. Et puis au moment où nous avons été confinés, 48 heures avant le déclenchement du confinement, c'est ma compagne qui a eu cette idée, qui m'a dit mais si on doit être confiné pendant 15 jours, à l'époque on pensait que ça durerait 15 jours, hein, on n'imagine pas que ça durerait plus longtemps, Il faudrait faire une petite capsule vidéo, là, apporter un savoir tous les jours. C'est un peu ce que nous faisions d'ailleurs avec nos enfants quand ils étaient petits, c'était un savoir par jour. Là, on s'est dit, on va faire la même chose en une minute et on va mettre ça sur les réseaux. Et alors, au fil du temps, très vite, au bout d'une quinzaine de jours, il y a pas mal d'enseignants qui nous ont demandé de rendre ces capsules plus accessibles, pas être obligé de s'abonner à un réseau social pour y accéder, et tout simplement de créer une chaîne YouTube pour que les élèves y accèdent plus facilement.
Donc il n'y a pas d'âge pour être YouTubeur ?
Ben non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Justement, c'est ce qui fait le charme de cette vie, finalement.
D'ailleurs, en voyant les youtubeurs de maintenant, ça vous arrive de vous dire que parfois, lorsque vous étiez dans le studio de C'est pas sorcier, vous étiez un petit peu un youtubeur avant l'heure?
Je crois qu'on est tous... on n'est pas des inventeurs. On est tous les héritiers de quelqu'un. Alors, je pense qu'il y a des youtubeurs qui ont été biberonnés à C'est pas sorcier et qui, ça a engendré, des vocations ou une façon de faire. Mais nous-mêmes, nous avons été très inspirés par nos prédécesseurs, par Jérôme Bonaldi, par Michel Chevalet, par les frères Bogdanov aussi, par Laurent Broumède. Donc, on prend le flambeau et puis on va un peu plus loin.
Jamy Gourmaud, sur votre bio Twitter, c'est écrit « curieux et enthousiaste ». La période actuelle est-elle propice à l'enthousiasme pour l'information et votre pratique quotidienne de vulgarisation ?
Je pense que oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis enthousiaste 24 heures sur 24. Mais il y a toujours une place pour l'enthousiasme. Le jour où on va pouvoir dire « ça y est, on a un vaccin », expliquer comment il fonctionne, ce sera très enthousiasmant. Et puis, la vie ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire depuis 6 mois, il s'est passé un tas de choses autour de nous qui, personnellement, ont suscité beaucoup de questions et des réponses qui m'ont enthousiasmé autour de phénomènes naturels extraordinaires. Au mois de juillet dernier, j'ai vu la comète NEOWISE, je peux vous promettre que pendant quelques jours, j'ai totalement oublié le Covid. Vous levez à 5 heures du matin et découvrir cette traînée blanche dans le ciel à 10 degrés au-dessus de l'horizon, on a le sentiment que ça ne bouge pas et c'est à 110 millions de kilomètres de vous, et ben ça me réjouit, même si je sais que l'ambiance générale est plutôt morose.
On a démarré notre échange en parlant de vulgarisation. J'aimerais qu'on termine en parlant d'éducation aux médias et à l'information. C'est notamment sur ce sujet que vous avez été sollicité pour participer aux Assises du journalisme de Tours. Trouvez-vous qu'en France, ce sujet est suffisamment pris au sérieux ?
Je pense que quand on dit éducation aux médias et à l'information, la base... c'est de parler d'information et de médias. Il y a quelques minutes, là, quand j'étais sur scène et que je répondais aux questions des lycéens et des collégiens, je les ai invités à lire la lettre ouverte que les médias ont publiée la semaine dernière. Et je crois que l'éducation aux médias et à l'information, ça commence par ça. Ça commence par se dire que on a la chance d'être dans un pays où nous avons une liberté d'expression. Et cette liberté d'expression, il faut la défendre. On considère qu'elle est acquise, mais nos prédécesseurs sont allés la chercher. Alors l'éducation à l'information et aux médias, ça commence par ça, par se dire on a cette chance-là, protégeons-la. Et puis derrière, effectivement, eh bien, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à aller chercher l'information. J'ai parfois le sentiment que on attend tout d'un média. On a l'habitude de lire un média, d'une information qui arrive à heure régulière. Parfois, on a le droit aussi d'aller en chercher une autre si l'on n'est pas satisfait. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi pendant cette période de confinement où beaucoup ont l'impression qu'il y a eu un trop-plein d'informations sur le Covid. Moi, je considère que c'est pas un trop-plein d'informations, c'est peut-être un manque d'autres informations. Mais là, c'est à chacun aussi de se prendre en main et d'aller chercher ailleurs. Voilà, parce que je sais qu'il y a des médias, je parle notamment de géopolitique et de politique étrangère, qui nous parlent d'autre chose. Voilà, vous voyez à qui je pense.
Vous parlez des RFI. Merci, Jamy Gourmaud, passeur donc.
Voilà, passeur. Merci. Bah, passez le mot.
Merci.
Au début, c'était une maladie à l'autre bout de la terre. Aujourd'hui, une pandémie qui ébranle le monde comme un tonnerre. Avec toutes nos sciences et nos puissances, nous n'avons rien trouvé pour s'en défaire. Alors, pour se protéger, respectons ces quelques mesures barrières.
C'est bientôt la fin de cette émission, l'heure de Mondoblog Audio qui nous emmène au Bénin, où l'arrivée du coronavirus a aussi bouleversé les médias. C'est le cas à l'Office de radio et de télévision du Bénin, l'ORTB, le service public d'information dans le pays. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, la direction a complètement modifié les conditions de travail des journalistes. C'est ce que nous raconte le journaliste et blogueur Shamsdine Baghiri.
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Les professionnels des médias, premiers acteurs à communiquer et sensibiliser sur le respect des gestes barrières, se doivent de respecter eux-mêmes les mesures de prévention sur leur lieu de travail. Les émissions débat qui réunissaient autrefois 4 ou 5 personnes ont connu des changements. Elles se font désormais par appel téléphonique. Les invités ou les journalistes de la maison participent de chez eux. Seul l'animateur de l'émission reste en studio. On cède donc du téléphone pour permettre à l'antenne de continuer comme si de rien n'était. La rédaction, composée d'une vingtaine de journalistes, a elle aussi changé sa façon de travailler. La salle de rédaction ne grouille plus de monde. Seuls les reporters viennent au bureau pour accomplir certaines tâches avant de repartir, leur micro avec eux, pour mener le combat contre le coronavirus. Pour leur conférence de rédaction, les journalistes ont d'abord décidé de se réunir en ligne sur WhatsApp. Mais à la réflexion, cela s'est avéré risqué. Parce que dépendre uniquement du net, c'est avoir totalement confiance dans la connexion et cela peut s'avérer préjudiciable le jour où elle manque. Pour pallier cette éventualité, les journalistes se sont organisés en petits groupes de travail, chacun à son jour de permanence. Finalement, ils tiennent les conférences de rédaction chaque matin en nombre restreint. Tous appliquent les gestes barrières, lavage des mains, port du masque et respect des distances de sécurité. Le coronavirus dicte sa loi à tout le monde, y compris aux professionnels des médias. En période de pandémie, c'est dans ces conditions que les journalistes continuent à informer et à sensibiliser la population. Les médias jouent un rôle très important dans la lutte contre la Covid-19, car aujourd'hui, la seule arme face au virus, c'est la prévention.
C'était le journaliste et mondoblogueur béninois Shamsdine Baghiri. C'est ainsi que s'achève cette émission, enregistrée à Tours, avec Simon de Creuse, qui était aussi en charge de la réalisation. Merci à Camille Deloche, qui était derrière Mondoblog Audio. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à nous donner une note sur votre application favorite. Castbox, Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.